Le peuple lu. Une nouvelle émission littéraire présentée par Laura Siboni.
Et bienvenue dans Le Peuple Lu, le rendez-vous littéraire qui met en lumière les écrivains juifs du XXe siècle. Pourquoi ? Parce que déjà, être écrivain, ce n'est pas facile. Être juif au XXe siècle, c'est pas folichon non plus. Mais alors, être écrivain juif au XXe siècle, c'est le creuset, sous haute pression, de toutes les misères, les angoisses, les déceptions. S'il est vrai que les plus désespérés sont les champs les plus beaux, c'est probablement là qu'on les trouvera. Cette émission vise à vous faire découvrir de nouveaux auteurs ou à vous donner envie de vous y replonger. Et la preuve qu'elle fonctionne, elle m'a fait découvrir Joseph Roth. Ça ne m'était plus arrivé depuis longtemps de finir un livre et d'avoir aussitôt envie de m'y replonger. Il y a tellement de niveaux de lecture et de dimensions dans les œuvres de Roth, elles sont si riches, elles reflètent si bien la difficulté de la condition humaine, qu'on peut sans se lasser les lire, les relire et y découvrir un sens nouveau à chaque fois. C'est que Roth est l'un des derniers témoins de la Mitteleuropa, de l'Empire austro-hongrois multiethnique, héritier du Saint-Empire romain germanique, de toute cette complexe et vivante imbrication de littérature, de langue et d'ethnie qu'était l'Europe cultivée d'avant la Première Guerre mondiale. S'il fallait le résumer, ce qui lui correspond si mal, je dirais que c'est l'auteur de la diversité, de cette diversité de l'Europe d'avant l'uniformisation, d'avant l'américanisation, d'avant les guerres nationalistes. Il a traduit à travers des personnages ce que Paul Valéry décrivait à la même époque. Chaque cerveau d'un certain roi était un carrefour pour toutes les races de l'opinion. Tout penseur, une exposition universelle de pensée. Il y avait des œuvres de l'esprit dont la richesse en contraste et en impulsions contradictoires faisait penser aux effets d'éclairage insensés des capitales de ce temps-là, les yeux brûlés sans nuit. Tout comme Paul Valéry, Joseph Roth se retourne après la guerre et soupire. Nous autres, civilisation, nous savons désormais que nous sommes mortels. Moses Joseph Roth, né en 1894 au Shtetl de Brody, en Galicie, au plein milieu du Yiddishland. En ce temps-là, la Galicie se trouve aux confins de l'Empire austro-hongrois de François-Joseph, à la frontière avec la Volhynie russe, et aujourd'hui en Ukraine, dans la région de Lviv. Roth a 20 ans lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale. Il est donc aux premières loges pour assister à l'éclatement de l'Empire, et au-delà d'une certaine forme de civilisation, un thème qui hantera tous ses livres, à commencer par Hôtel Savoy, qu'il publie dès 1924. Son ouvrage le plus célèbre, La marche de Radetzky en 1932, retrace sur trois générations le lent naufrage du monde d'hier, du monde insouciant, de la belle époque. C'est ce qui fait toute son actualité aujourd'hui, un siècle plus tard. Roth ne peint pas seulement l'éclatement de l'Empire de l'Europe des Nations, il vit la disparition des derniers caractères de la Mitteleuropa, des derniers gardiens d'une certaine idée de l'homme. En préface de La marche de Radetzky, il écrit « Une volonté cruelle de l'histoire a réduit en morceaux ma vieille patrie, qui me permettait d'être, en même temps, un patriote et un citoyen du monde. » En 1933, les nazis brûlent ses œuvres et le contraignent à s'exiler en France, où il mourra, dans la misère et l'alcool, en 1939, en même temps que la paix européenne. Difficile d'être précise sur la vie de Joseph Roth qu'il romance souvent. Cette obsession d'une vie intraçable se retrouve chez beaucoup de ses personnages, qui changent d'identité, se font faire de faux papiers, désertent, passent illégalement les frontières, et finalement préserve une forme de liberté par le vide et par la fuite. De même pour ses textes, on retrouve régulièrement encore aujourd'hui des inachevés ou des inédits de sa plume. Parmi ses titres les plus célèbres des romans, Hôtel Savoy, La fuite sans fin sur un officier autrichien qui s'échappe de Sibérie, Le prophète muet sur un révolutionnaire russe qui veut être et qui est exilé en Sibérie, Père Lefter, histoire d'un bourgeois inachevé sur le plus tiède des hommes, La crypte des Capucins, à la première personne, Le poids de la grâce, qui retrace le destin de Mendel Singer, étrangement similaire au Job dont il porte le nom de la version allemande, et bien sûr, La marche de Radetzky. Des essais, comme Juif en errance, des nouvelles, une fantastique correspondance notamment avec Stefan Zweig. Beaucoup d'articles et de recueils de chroniques, puisqu'il était journaliste dans des revues de tendance très variées, du socialisme au monarchisme. Bref, Joseph Roth a quelques similarités avec un kaléidoscope, tout comme l'Europe dont il a écrit l'épitaphe nostalgique. S'il y a plusieurs types de dépression, il y en a certainement une qui consiste à avoir pour héros Friedrich Cargan, Franz Tunda, le baron Trotta ou Mendel Singer. Ce sont des hommes extraordinaires comme nous le sommes tous, c'est-à-dire mélancoliques, insatisfaits et mal à leur place. Dans chacun se projette la vie d'un autre. Le baron Trotta vit dans l'ombre de son grand-père, le héros de Solferino, Mendel Singer a un double biblique au job, et Friedrich Cargan au Trotsky, double fictionnel et très romancé. Autour de ces personnages, on retrouve immanquablement les névroses de Joseph Roth. Le personnage de Capturac, toujours obscur et malin, qu'il soit passeur clandestin, trafiquant, faussaire ou usurier, et le plus souvent un peu de tout. Les Juifs de Galicie en figurant à longue barbe et caftan noir. La futilité charmante et criminelle de la haute société de Vienne, brillante, cosmopolite et incapable de voir la réalité. Et, par-dessus tout, l'implosion du rêve d'une tour de Babel européenne et son naufrage dans le sang. Joseph Roth a une vision presque organique de la guerre, comme un orage qui doit éclater. Et, contrairement à beaucoup d'auteurs et de soldats de l'époque, il n'est pas optimiste sur ce qui lui succédera. Tout de suite, évidemment, la marche de Radetzky de Johann Strauss, à laquelle l'œuvre la plus célèbre de Joseph Roth emprunte ironiquement son nom. C'était la marche de Radetzky de Johann Strauss. Et pour vous faire découvrir celle de Joseph Roth, j'ai choisi le passage qui suit l'assassinat de l'archiduc en pleine fête. Le capitaine Josh, quelques confettis dans les cheveux et un reste de serpentin rose autour du cou, bondit de son siège. Il se sentait offensé en tant que comte, capitaine de cavalerie et singulièrement de dragon, disons en tant que cavalier, mais surtout en tant que lui-même, individu d'une espèce toute particulière, en tant que Zoche tout court. Ses épais sourcils se hérissèrent, formèrent deux haies de petits piquants dirigés contre le commandant Zoglauer. Ses grands yeux clairs et stupides, qui reflétaient d'ordinaire ce qui avait pu les impressionner des années auparavant, mais rarement ce qu'ils voyaient au moment même, semblaient exprimer à présent la morgue des ancêtres de Zoche, une morgue du XVe siècle. Il avait presque oublié l'éclair, le tonnerre, la terrible nouvelle, toutes les péripéties des minutes précédentes. Sa mémoire conservait seulement le souvenir d'une malle qu'il s'était donnée pour la fête, son idée de génie. Il n'était pas non plus des plus résistants, il avait bu du champagne et son petit nez au pied de marmite transpirait un peu. « La nouvelle n'est pas vraie, dit-il. Elle n'est certainement pas vraie. Que quelqu'un me prouve qu'elle est vraie. Pur mensonge. Le bruit court, ou selon toute vraisemblance, et tout votre charabia politique me le prouve bien. » « Un bruit est bien suffisant, déclara le commandant Zoglauer. Alors, M. von Babenhausen, capitaine de réserve de la cavalerie, se mêla au débat. Il était un peu éméché, s'évantait de son mouchoir, tantôt le fourrant dans sa manche et tantôt l'en tirant. Il se détacha du mur, s'approcha de la table, contracta les paupières. « Messieurs, dit-il, la Bosnie est loin de nous. Pour nous, les bruits ne comptent pas. Moi, pour ma part, je me fiche des bruits. Si c'est vrai, on la prendra bien assez tôt. »« Bravo !» s'écria le baron Nagyjeno, le capitaine de hussards. Bien qu'il descendît sans doute possible d'un grand-père juif d'Odenbourg et que sa baronnie n'eût été achetée que par son père, il tenait les Magyars pour l'une des races les plus nobles de la monarchie et du monde, et il s'efforçait, avec succès d'ailleurs, d'oublier la race sémite dont il était, en prenant tous les défauts de la gentry hongroise. « Bravo !» répéta-t-il une fois encore. Il était parvenu à aimer, ou le cas échéant à haïr, tout ce qui lui semblait servir ou desservir la politique nationale des Hongrois. Il avait entraîné son cœur à détester le prince héritier de la monarchie, parce qu'on disait généralement qu'il était favorable aux populations slaves et qu'il en voulait aux Hongrois. Le baron Nagy n'était pas venu assister aux fêtes de cette frontière perdue, spécialement pour se laisser déroger par quelque incident. Au reste, il estimait qu'un ressortissant de la nation magyare commettait une trahison à l'égard de son pays, quand un bruit lui faisait négliger l'occasion de danser une xardas, que des raisons de race lui créaient l'obligation de danser. Il affermit son monocle, ainsi qu'il le faisait quand il devait éprouver des sentiments patriotiques, tout comme un vieillard qui part aux promenades affermit la main sur sa canne, et dans l'allemand des Hongrois, qui ressemblait à une sorte d'épellation plus rare, il dit « Monsieur von Babenhausen a tout à fait raison, tout à fait raison. Si monsieur le prince héritier est réellement assassiné, il y a encore d'autres princes héritiers. » Donc, ce qui est particulièrement amusant dans ce passage, c'est que Joseph Roth décrit l'éclatement de l'Empire austro-hongrois à partir de l'éclatement des différentes nationalités qui sont présentes à cette fête. Et le contraste entre la fête et l'assassinat est très représentatif de l'ensemble du livre. Mais maintenant, je dois vous faire une confession. Les épisodes du Peuple lu se finissent, vous le savez, par un échange avec un lecteur, pour parler de ce qui vous a fait découvrir un auteur, de ce qui vous y plaît ou vous y déplaît, de ce que vous recommanderiez à quelqu'un qui voudrait le lire. Eh bien, j'ai lancé un appel sur les réseaux sociaux et je n'ai pas trouvé, parmi mes followers, un seul lecteur de Joseph Roth. Alors, je les envie, ils auront la chance de le découvrir. Mais pour la peine, je vous dois une deuxième lecture, moins connue, Le prophète muet, inachevé, qui est une passionnante réflexion sur les idéaux révolutionnaires, la malédiction du pouvoir et la déception. Lorsque j'ai découvert Le prophète muet, je me suis pris une telle claque que je l'ai immédiatement relu. Puis je l'ai refermé et rouvert une troisième fois. Je crois bien que c'est le seul livre que j'ai lu trois fois de suite. Un extrait. Chapitre 8. Dès lors, Friedrich travailla pour la cause, comme disaient ses amis et comme il dit désormais lui-même. Il s'accoutuma à trouver dans le renoncement et l'anonymat l'enthousiasme sans lequel il ne pouvait vivre. À l'inexorabilité qu'il avait tant crainte, il arracha encore un charme, à l'absence d'espoir une consolation. Il était jeune. Il ne croyait donc pas seulement à l'efficacité du sacrifice, il croyait aussi que la récompense fleurit sur la terre du sacrifice comme la fleur sur la tombe. Cependant, il y avait des moments qu'il appelait ses heures de faiblesse, où il se permettait, à titre privé, d'espérer dans la victoire de l'idée, une victoire qu'il pourrait vivre. Il ne l'avouait que lorsqu'il était avec R. « N'attachez donc pas tellement d'importance à tout ça, disait R. Je ne crois pas à l'absence totale d'égoïsme que chez les morts. Tout le monde veut avoir un bon moment, un moment de revanche. Tout le monde sauf Savelli, dit Friedrich. Vous vous trompez, répliqua R non sans hargne à ce qu'il me sembla alors. Vous ne connaissez pas Savelli. On le comprendra un jour, mais ce sera trop tard. Il joue le rôle de l'homme qui n'a plus de cœur parce qu'il en a fait don à l'humanité, mais on se trompe, il n'a pas de cœur. Je préfère un égoïste. L'égoïsme est un signe d'humanité et notre ami est inhumain. Il a autant de tempérament qu'un crocodile hors de l'eau, autant d'imagination qu'un palefrenier, autant d'idéalisme qu'un iswatchnik. Et tout ce qu'il a fait jusqu'à présent ? C'est une grossière erreur de juger les hommes d'après leurs actes. Laissez ça aux historiens bourgeois. Il y a autant d'innocence dans l'action que dans le rêve. Notre ami aurait pu organiser des pogroms aussi bien que piller les banques, comme il l'a fait. Alors pourquoi reste-t-il de notre côté ? Parce qu'il est trop peu doué, disons pas assez souple intellectuellement, pour se délivrer de la contrainte du passé. Quand les hommes de ce genre choisissent un chemin, ils s'y tiennent. Ce n'est pas un traître, mais c'est notre ennemi. Il nous hait, comme le paysan russe hait les intellectuels des villes. Il me hait, moi particulièrement. Pourquoi vous particulièrement ? Parce qu'il a des raisons pour ça. Soyons justes. Je ne suis pas russe, je suis européen. Je sais qu'il y a entre moi et nos camarades un fossé plus grand encore que celui qui nous sépare tous, nous les intellectuels des prolétaires. Je joue de malchance, j'ai une culture occidentale. Tout en étant révolutionnaire dans mes opinions, j'aime le centre. Tout en préparant le bouleversement, j'aime la mesure. Je n'y peux rien. Et donc, j'abrège ici la lecture du prophète muet pour vous laisser bien évidemment le découvrir, et découvrir l'œuvre de Joseph Roth. Je vous envie de pouvoir le découvrir. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention.
Le peuple lu. Une nouvelle émission littéraire présentée par Laura Sigonnier.